tout juste 20h sur les antennes de Radio G. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre émission sportive de la grille, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Très ravi de vous retrouver pour cette heure consacrée au sport qu'on va passer ensemble sur les antennes de Radio G. Aujourd'hui, en ce mardi 6 février, l'équipe est bien au complet avec notamment Faustin qui est juste à ma gauche. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va très bien. J'ai passé mon bac de PS ce matin, c'était mon rattrapage du 3x500 que j'avais pas fait à cause de ma blessure.
Et alors?
Très bien, j'ai fait 3 fois 1 minute 33, normalement c'est une note presque parfaite, j'ai envie de dire.
Bah c'est parfait ça, ouais. Du coup pour les JO, c'est la quali- t'as les minima ou pas?
Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est une 35 et j'ai fait une 33, donc je crois que je suis...
Parfait, on t'attend. Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut à tous. Moi ça va super. En plus, premier match en région ce week-end et première victoire, 5-1.
Tant mieux.
Ouais, on a fait un super match. J'ai mis un doublé. Donc,
oh là là,
ça s'est bien passé.
Ça score. C'est vrai que t'es numéro 10, donc
c'est ça.
Près du but et un doublé pour toi ce week-end. Magnifique. Cédric est également avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Bah écoute, ça va plutôt bien.
Ça va à la forme?
Ouais, écoute,
un bon petit week-end aussi?
Bah, pas trop au niveau sportif, hein, parce que bon, avec le boulot.
T'as pas trop
pu. C'est bien de mettre du rugby pour une fois un vendredi soir, mais faites jouer les matchs un peu plus tôt.
S'il vous plaît.
Mais c'était assez calme, quoi.
Ouais. Dans l'ensemble.
Dans l'ensemble, ouais. Après, il y avait quand même eu la semaine qui avait été riche.
Oui,
c'est en info sur d'autres sports. Donc.
Et oui, on a pas mal de choses à voir dans cette émission, des actus assez chargées au niveau local. On va revenir sur les résultats de nos clubs locaux, le SCO, le AB, l'UFAB, le SCO en balle ou encore même les Ducs d'Angers. Et puis au niveau international, on va faire une grosse page foot avec pas mal d'actus en ce moment. Faustin, tu nous parleras un petit peu de NBA. Est-ce que tu vas nous parler du All-Star Game ou
Ouais, des titulaires. Je prévois une belle chronique pour la semaine prochaine.
Oh, carrément. Ah. Eh ben, très bien. On a hâte de ça. On parlera un petit peu de Formule 1. C'est vrai qu'avec ce transfert retentissant d'Hamilton à Ferrari, qui a fait beaucoup de bruit. Je vois que tu fais la moue, mais
pour les journalistes, oui. Mais après.
Pour l'instant, t'es pas mal. Tu nous en parleras.
On en parlera. C'est pas effectif, en tout cas, tout de suite.
On parlera des résultats également des judokas français au Grand Slam de Paris de ce week-end, avec pas mal d'enseignements pour les JO notamment. Je vous dirai peut-être deux mots aussi sur le hand, puisque j'étais pas là la semaine dernière. Et entre-temps, depuis deux semaines, on est champion d'Europe, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et j'ai vibré sur le week-end passé. Donc voilà, on parlera de tout ça. Et puis effectivement, peut-être un point sur le rugby avec cette défaite cinglante, si je puis dire, des Bleus qui redémarrent assez mal. Ce tournoi à destination. Écoutez, on va commencer sans plus tarder avec les actus locales. On va commencer par le SCO. Alors que le début d'année 2024 n'était pas très reluisant au niveau résultat, le SCO a réussi à réenclencher une bonne dynamique en reprenant la première place de la Ligue 2 samedi soir. Pendant qu'Auxerre était tenu en échec sur la pelouse de Pau, pardon, les Angevins ont renversé Rodez 2-1 à Raymond Coppa. Menés dès la 4e minute de jeu, les joueurs d'Alexandre Dujeu étaient parvenus à égaliser juste avant le retour au vestiaire grâce à la tête de Lopi sur un centre de Hanin. Dès la reprise, les Angevins repartaient de plus belle et El Melali donnait l'avantage aux locaux sur une reprise de volée imparable. La nouvelle recrue, Le Paul, en profiter d'ailleurs pour signer sa première passe décisive de la saison. Ce succès précieux permettait donc aux Noirs et Blancs de reprendre la tête de la Ligue 2 avant le gros choc contre le Dauphin Auxerrois samedi 15h au stade de la Baie des Champs. Un match que ne disputera pas le portier angevin Yaya Fofana, toujours en lice à la CAN avec la Côte d'Ivoire. Messieurs, on a repris la première place. Et est-ce que le prochain match donc contre Auxerre, qui est derrière nous à 2 points, c'est un match déjà décisif pour la montée? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un match décisif, même s'il reste encore plein de journées derrière? Ça peut être un tournant déjà.
Ouais, je pense que dans les mentalités des joueurs, gagner contre Auxerre, prendre 5 points d'avance contre le deuxième, du coup, ça sera dans les mentalités, du coup, je le disais, une énorme avance qu'on aura sur les autres. En plus on gagne 3 points de plus, ce qui nous approche toujours plus de, du coup c'est les 2 premières places qualificatives, on espère la première, et c'est sympa d'avoir toujours une petite bataille premier deuxième voire dans l'enjeu dans la saison, que je pense que ouais, cette victoire nous ferait avancer grandement dans la montée.
Et je sais pas si tu l'as précisé, mais c'est aussi la 10e victoire de suite à domicile pour le SCO. Ouais. C'est une série qui avait jamais été réalisée encore depuis plus de 20 ans, donc ça prouve bien la dynamique positive dans laquelle ils sont, même si le début d'année n'a pas été très convaincant. Ils ont réussi, à domicile, ils réussissent toujours à faire de bonnes performances. Là, aller chercher Auxerre chez eux, ce serait vraiment une très grosse performance, et ça montrerait que le SCO prouve cette dynamique des matchs à domicile. Parce que les 2 derniers matchs à l'extérieur, ça n'a pas été très convaincant. Après, à voir. On espère qu'ils vont gagner et prendre 5 points d'avance, du coup, ça serait très décisif.
C'est vrai que pour toi, ce serait aussi
C'est pas le match qui va être le plus décisif.
Pour toi, il y a un autre match que t'as en tête?
Mais ça va être l'enchaînement, en fait. L'enchaînement des matchs. Parce que quand on voit les équipes qui vont jouer, niveau classement, c'est des équipes qui veulent remonter vers le haut. Il y a Saint-Etienne qui est bas, qui est 11e. Mais derrière, tu joues quand même Caen, tu joues Ajaccio, tu joues Valenciennes, qui sont mine de rien dans les places pour remonter au classement.
Valenciennes est dernière.
Valenciennes est dernière?
Ouais.
Ah, j'ai confondu avec un truc que j'ai vu, mais bon. Ça n'empêche pas que Valenciennes, justement, c'est peut-être un match dangereux.
Oui.
Donc, effectivement, ça va être une étape d'aller gagner à Auxerre. Ça te permet d'avoir tes 3 points de sécurité. Et derrière, ces matchs-là contre le vent moutre, un peu de la Ligue 2, ouais, où là, tu dois confirmer, tu dois obligatoirement aller chercher la victoire, pas te contenter d'un match nul. Parce que là, à la rigueur, contre Auxerre, on peut se contenter d'un match nul, on sera toujours devant, ça fera 3 points de... Ça fera toujours de points, mais...
Et par exemple, Laval ne grattera pas tant que pour l'instant.
C'est Grenoble qui est troisième.
Grenoble. Et j'avais une autre question
on va enchaîner de toute façon.
Ouais.
Oui, il y a Laval juste avant Grenoble, donc.
Ça va être sympa.
Je sais pas le calendrier de Auxerre s'il est plus abordable pour, en étant outsider pour l'instant. Que celui du SCO.
Il me semble qu'Auxerre a déjà joué Grenoble sur la phase retour. J'avais une autre question par rapport à ce que j'ai évoqué en fin de partie. Par rapport à Yaya Fofana, parce que je regarde un petit peu les matchs du SCO en 2024. On sait que on a eu quelques difficultés, hein, ce qui peut un petit peu arriver. Donc Yaya Fofana qui est avec la Côte d'Ivoire, même si pendant un temps on a bien cru que la Côte d'Ivoire allait être éliminée de sa propre CAN. Il est toujours là. D'ailleurs, il a arrêté un penalty sur le quart de finale qui a été clairement décisif. Le SCO n'a toujours pas réalisé de clean sheet en 2024, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. La défaite à Brest, la défaite à Bastia, la victoire 3-2 contre QRM, la défaite à Bordeaux, et là encore une fois on a pris un but rapidement dans le match. Est-ce que le retour, donc, qui va peut-être être attendu pour le match de Saint-Etienne, à voir également en fonction de ce qui est laissé comme repos à Yaya Fofana, est-ce que potentiellement la mauvaise période, en tout cas les quelques défaites du début d'année ont été un peu dues au fait de mettre Melvin Zinga qui n'a pas fait de grosses boulettes, mais qui est peut-être moins expérimenté qu'il y a Fona au niveau de la Ligue 2.
Bah, évidemment, il n'y a pas que ça. Mais ça a dû sûrement jouer, parce que dans le collectif, jouer sans ton gardien titulaire, ça faut se réhabituer à de nouvelles choses. Et pour moi, c'est clair que l'absence de Yaya Fofana nous a porté défaut. Pas non plus parce que le gardien remplaçant a pas fait de grosses erreurs, mais Yaya Fofana, c'est limite devenu un gros pilier de l'équipe cette saison, j'ai l'impression.
Mais le problème, c'est que c'est un truc qui aurait pu être anticipé. On savait qu'il allait jouer la CAN. Tu fais tourner beaucoup plus tôt tes gardiens pour justement que les deux puissent avoir du temps de jeu, et surtout pour ton gardien qui va être absent pendant un mois, avoir quelqu'un derrière.
Alors qu'à une époque, c'est vrai qu'on avait quand même, on a souvent eu deux bons gardiens qui prétendaient être titulaires. Ouais. Je me souviens de l'avant-dernière saison en Ligue 1.
Butel, Le Tellier.
C'est ça, mais même l'avant-dernière saison en Ligue 1, on a trois gardiens titulaires qui s'enchaînent avec d'abord Bernardoni, ensuite Petkovic, pardon, ouais. et Mandrea qui termine sur la fin, ils avaient tous eu des bonnes périodes. Mmh. Au final, c'était Bernardoni qui était revenu, ouais, et puis c'était Yaya Fofana aussi ils étaient reliés sur la saison dernière. Mmh. Et là, Yaya Fofana est tout seul et Melvin Zinga pour l'instant, sans lui faire offense, évidemment, il y a quand même eu des victoires. Puis surtout, par exemple, sur le but de ce week-end, il n'est pas forcément responsable. Mais voilà, forcément, c'est un jeune joueur qui a 21 ans, donc forcément, c'est quelque chose qui se ressent, en tout cas. Et puis, comme tu parlais aussi, je crois que c'est toi, Faustin, au niveau du collectif, la sérénité de tes défenseurs quand.
Oui, je pense.
L'alchimie, quoi, la communication qui doit être différente, forcément, par rapport à ça. Et donc, on a hâte que notre ami Yaya Fofana revienne. Osco.
Après, je trouve ça normal aussi qu'ils aient peut-être un petit coup de mou, le SCO. Enfin, ils peuvent pas faire une saison.
Oui, voilà. De toute façon, on les attendait pas là où ils sont. Hein.
Faut
le rappeler quand même. Ouais. Être premier de Ligue 2, pardon, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu. Et puis surtout, le début de saison nous présageait pas ça. On était plutôt dans le milieu de tableau. Voilà. Et puis au final, au fil des journées, on a commencé à être très bon. Donc voilà, petit rappel au classement. Donc Angers 46 points, Auxerre 44, Grenoble 40, Laval 39 et Amiens, donc qui est sur la dernière place qualificative pour les playoffs de la montée, 35. Donc on a 11 points sur Amiens qui est 5e et Pau qui est 6e. On a 13 points d'avance. Donc on a 13 points sur la place dans laquelle on ne jouerait rien en fin de saison. Donc c'est quand même assez intéressant on peut dire qu'on jouera quelque chose les playoffs et après on verra si la montée est directe en Ligue 2.
Après ça tend quand même de bouger hein, parce qu'il n'y a pas de gros écarts quand même. Hein.
Bien sûr.
13 points c'est quand même très conséquent. Hein.
Pour moi,
13 points ça peut aller très vite. Hein.
Faut quand même perdre 5 matchs de suite et que les autres ils en gagnent 5 de suite.
13 points, c'est
franchement
c'est
un bon match là. 13 points.
En 13
journées.
La Ligue 2, c'est beaucoup plus dur de tenir sur la longueur que la Ligue 1.
Tout peut basculer. Mais moi, j'irais plus par rapport au podium. Je pense que les places sur le podium.
Oui, ça peut changer. Oui. Mais de là à passer 7e en étant premier au bout de 23 journées, c'est vraiment que.
Faudrait
s'écrouler. Il y a eu un énorme changement.
Mais c'est vrai que je sens que tu es. Comment dire timoré. Tu es sur la réserve.
C'est logique. Enfin,
je sais que tu es pour le SCO, mais je veux dire.
Quand tu vois les écarts qu'il y a actuellement, tout est possible.
Oui, non, mais voilà.
C'est mathématique, c'est possible.
Mathématiquement, tout est possible.
Il faut le.
Après, quand tu regardes en Ligue 1,
Lyon peut jouer l'Europe l'année prochaine, peut-être. Hein.
Entre le deuxième et le huitième, il y a 9 points, quoi. C'est bien moins, il y a bien moins d'écart.
Bon, voilà, on suivra évidemment la saison du SCO. On espère évidemment la montée en Ligue 1 pour le club Angevin. Bon, allez, Faustin, on va parler maintenant basket avec nos trois clubs locaux. Ça n'a pas été très brillant.
Et pourtant, ça a commencé avec une victoire pour l'EAB, ce qui n'est pas arrivé souvent cette saison. C'était de 2 petits points seulement face à Saint-Chamond à domicile sur le score de 94 à 92. Mais ils ont ensuite perdu pour leur deuxième d'affilée à domicile. Ils jouaient le mardi puis le vendredi à Jambouin. C'était face à Grisoufel sur le score de 80-79, une défaite de seulement un point. L'issue du match s'est décidée dans les dernières secondes. C'est dommage, c'est une victoire qui aurait pu les écarter de la dernière place du classement que les Angevins occupent toujours à égalité avec Fos-sur-Mer. Ils jouent d'ailleurs en ce moment même à Poitiers. Il y a 9-5 pour Poitiers à 4 minutes 22 dans le premier quart-temps. Et c'est une salle qui m'a l'air bien remplie avec une ambiance assez chargée. Ouais,
Poitiers qui est 10e actuellement de Pro B. L'UFAB maintenant, pareil, ouais, une défaite aussi cette
défaite,
semaine.
C'était contre Landerneau, pourtant dernière du classement au moment où elles les affrontaient. Elles avaient pourtant, c'était l'occasion de faire une bonne dernière pour Blake D'Electric, la remplaçante pigiste de Leïla Lacan, qui jouait donc son dernier match sous les couleurs angevines, mais malheureusement elles n'ont pas réussi à tenir ce match. Elles perdent 73-71, là aussi un match qui s'est décidé dans les dernières minutes. Elles se trouvent désormais à 2 victoires d'écart avec la 8e place. La 8e place qui veut dire accession au play-off. Elles sont 9e et accèdent donc au play-down si rien ne bouge. Elles essaieront tout de même de se rattraper dimanche face à Villeneuve-d'Ascq, ce qui n'est pas gagné. Pour Cholet maintenant, pareil, c'est pas glorieux. Ils ont enchaîné 2 défaites. La première en Ligue des Champions contre Malaga, pourtant à la Meyret, 86-74. Et la deuxième en Betclic Elite contre Nanterre, 91-87. Mais la bonne nouvelle pour Cholet, c'est que Tijan Salon, le jeune Choletais, présumé dans le top 10 de la draft NBA, a été élu meilleur jeune du mois, ainsi que meilleur joueur tout court de la Betclic Elite du mois de janvier. Et Laurent Villa a lui été élu meilleur coach du mois de janvier. Donc un carton plein pour les Choletais en ce mois de janvier, malgré les 2 premières défaites dans le mois de février.
Voilà un bilan qui était donc globalement mitigé hein, pour nos clubs locaux. Voilà un petit peu pour le basket. On va passer maintenant au handball. À l'occasion du match de reprise du SCO, les joueurs d'Issam Tej ont réalisé une très mauvaise opération contre Valence face à un concurrent direct au maintien. Les Angevins ont craqué en fin de match à domicile, alors que tout semblait idéal pour voir les Noirs et Blancs signer leur 5e victoire de la saison en championnat. En première mi-temps, les coéquipiers d'Ashraf Safi ont fait la course en tête sans réussir à creuser un écart déterminant pour la suite. En seconde période, même scénario, le SCO menait sans pour autant prendre cette distance avec les Valenciens au score. À 7 minutes de la fin, alors que les locaux mènent 23-20, la partie va basculer. Leurs adversaires vont prendre inefficace devant le but. Les Angevins laissent leurs adversaires prendre l'avantage à quelques poignées de secondes du terme. Valence s'imposera donc finalement 24-23, réalisant une très belle opération au classement. Pour le SCO Handball, l'occasion de prendre 6 points d'avance sur la zone de relégation a été manquée, d'autant plus que les joueurs d'Issam Tej joueront Ponton Combo la semaine prochaine, candidat à la montée en Star League. Donc voilà une défaite qui fait mal pour le SCO, qui a pris un 4-0 sur les 7 dernières minutes d'une rencontre qu'ils maîtrisaient dans l'ensemble. À voir sur la suite s'ils sont capables de rebondir, même s'ils ont encore 4 points d'avance sur Caen, qui est le seul relégable, puisqu'on rappelle que Villeurbanne a déclaré forfait en Pro League. On va parler des Ducs d'Angers maintenant. Alors que le début d'année 2024 ne partait pas de la meilleure des façons, les Ducs d'Angers ont su rebondir sur la fin du mois de janvier. Cette semaine, les coéquipiers de Robin Gabory, devenus co-meilleur buteur de l'histoire du club, recevaient Nice avant de se déplacer à Anglet. Mardi dernier, les Ducs s'imposaient donc tranquillement 5-2 contre les Aiglons de Nice. Vendredi, l'Ormandie d'Anglet avait proposé une très belle opposition aux Angevins, et au cœur d'un match animé, ce sont donc finalement les Basques qui ont pris le meilleur sur leurs adversaires du jour, 4-3. Et c'est donc à l'occasion de ce match que Robin Gabory est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du club angevin, à égalité avec le Canadien Jonathan Bellemare, avec 140 buts tous les deux au compteur sous les couleurs du club de l'Anjou. Un record qu'il pourra peut-être définitivement s'adjuger dans une semaine contre les Gothiques d'Amiens, après une pause d'une dizaine de jours due à la trêve internationale. Cédric, une grande performance encore une fois de Robin Gaboureux, qui confirme que c'est une, on va dire, une légende du club, on peut le dire.
Ah bah oui, de toute façon c'est pour ça qu'il est capitaine depuis un moment. Il n'aurait pas eu sa suspension plutôt dans la saison là, de 5 matchs. Je pense que le record il serait déjà
tombé.
Sera tombé. Là, il y a quasiment aucun truc qui pourrait l'empêcher d'ici la fin de la saison de pas en marquer un. Donc,
Ouais, il va devenir meilleur buteur.
Normalement, oui. Ce serait, enfin, faudrait vraiment qu'il ait un gros coup de mou. Mais là, bon, il y a les, sans compter les playoffs, il a assez de matchs pour dépasser le record. Donc,
oui.
Ça devrait.
C'est un cycle, c'est bien.
D'ailleurs, les playoffs qui arrivent dans quelques matchs maintenant. Et oui,
ça va arriver.
Je crois que c'est dans 7 matchs, quoi.
C'est ça.
Il reste encore 7 matchs avant les playoffs. On le sent comment, Cédric, cette année?
Bah, normalement, c'est bon. On est dans le top 3.
A priori, ouais.
On est qualifié, ça c'est sûr. Ça a été confirmé.
Ouais.
Après, c'est à quelle place? Mais bon, j'ai envie de dire, en soi, la place va pas trop influencer, puisqu'il y a juste, pour le choix des matchs, je crois que les trois premiers, de la saison régulière reçoivent vos premiers matchs.
Voilà.
C'est juste cet avantage-là que ça donne, et ça dépend contre qui tu joues.
On peut en profiter pour faire un point sur le classement. Rouen est premier avec 89 points. Angers est deuxième avec 83 points. Et Grenoble est troisième avec 75 points. Donc voilà. A priori, pour l'instant, tout semble destiné à ce que Angers, sauf retournement de situation, termine deuxième de saison régulière. À noter qu'il reste donc, comme je le disais, pour les Angevins en tout cas, c'est bien ça, 7 matchs à disputer. Et donc, a priori, pour l'instant, en l'état actuel des choses, ce sont les Jokers de Sergi Pontoise que les Angevins affronteront. On verra ça, même si c'est encore serré avec Marseille et Amiens.
Même
Bordeaux, évidemment. Mais voilà, c'est le septième que les Angevins affronteront, et c'est assez serré. Bon, voilà, je sais pas si Cédric t'as un adversaire, non, ce que tu préfères, c'est à peu près la même chose. Éviter peut-être Bordeaux, ouais.
Marseille.
C'est peut-être leur premier en play-off. Oui, ils vont être boostés.
Ils sont arrivés cette année.
Ils déméritent pas.
Bon. Après, voilà, les saisons d'avant, ils sont pas forcément montés parce que il y a aussi le gap au niveau pognon qui empêche ça aussi. Mais non, c'est pas. C'est peut-être eux, ouais, qui vont être peut-être les plus compliqués à jouer, parce que justement, avec la niaque d'aller jouer leur première playoff dès la première saison, c'est vrai que c'est une belle histoire. Mine de rien, c'est des grosses influences à Marseille pour les matchs.
Et on a vu qu'en Coupe de France, il y a des surprises cette année en France.
Sauf à la fin, bon, il y a pas trop de changements, mais il y avait un coup à faire ce week-end pour remonter sur Rouen après la contre-performance contre Angers. Alors, contre-performance, somme toute relatif.
On va dire la performance d'Angers.
Au vu du score, mais non, ils ont réussi à se rassurer et à repartir de devant. Chose que nous, on n'a pas réussi à confirmer.
Exactement.
Avec cette défaite, donc
au niveau du cœur.
Mais en tout cas. Ouais, je dirais, moi, pour moi, le plus dur, ça va être peut-être Marseille à jouer.
Ouais. Et bien, justement, au niveau du calendrier qui va rester au niveau de la saison régulière, les Angevins recevront Amiens, iront à Marseille, ils iront également à Briançon, ils recevront ensuite Bordeaux, ils se déplaceront à Gap, ils recevront Grenoble pour l'avant-dernière journée, et puis enfin, ça se terminera sur une rencontre à Chamonix. Voilà pour les
On a quand même un gros calendrier à jouer. Pour la fin la saison. Normalement, ça devrait servir de bon test, entraînement ouais, pour
bien sûr
pour les playoffs.
Quelques petites infos également au niveau des sports locaux avec d'autres clubs. On va parler notamment du SO Cholet qui a subi une nouvelle défaite à Nancy 1-0. Les Choletais qui sont actuellement derniers de National 1 à 9 points du premier non relégable. Malheureusement, la relégation en N2 semble promise aux Choletais. Au niveau, on va rester dans le foot avec la Croix-Blanche. On va faire un petit point sur le classement. Les Angevines sont actuellement 8e sur 12 dans leur poule de division 3 féminine. Les Angevines qui ont perdu ce week-end 4-1 du côté de la Roche-sur-Yon. Et puis enfin, un petit mot de tennis de table avec les Loups d'Angers. La semaine dernière, défaite 3-0 à Caen, qui est actuellement dernier de Pro A. Les Angevins qui sont un petit peu en danger par rapport à la zone de relégation. Match à venir ce soir contre Torigné pour essayer de rebondir et se donner de l'air au classement. Voilà pour les actualités locales. On passera aux actualités internationales juste après la pause musicale. On va tout de suite s'écouter Josman et son titre Intro et on se retrouve juste après.
Yeah. Mon ressenti ne change pas, ça m'inquiète. J'ai de l'amour mais à la haine qui empiète. Oh Seigneur, où on va? Ton oeillette, souvenirs dans la fumée, les remords aux oubliettes. Je sais pas trop ce que j'ai, j'suis pas dans mon assiette. J'suis pas d'humeur à la fête. Non, j'sais pas trop ce que j'ai un peu mal à la tête. J'suis pas d'humeur à la fête. Car trop peu me comprennent, maman. Trop de peine, maman. Mon cœur saigne, maman. Je sais que je peux pas faire maintenant. Dans les pires moments, j'ai le fire, maman. Et je me sens seul au cœur du peloton. La pression a haussé le ton. Pas, j'ai déjà touché le fond. Je paye les frais de ma dévotion. Du mal à dire je t'aime, du mal à exprimer mes émotions. Moi j'ai pas toutes les notions, j'ai pas toutes les solutions. Avec enseigne la mort, corrige chaque jour. J'apprends, je retiens les leçons. Comme quand j'étais au fond de la classe, quand je voulais faire le tour de l'Atlas. Je pars à la chasse pour ma place. Je me déplace, tout s'efface comme les traces. Mais toutes mes valeurs sont tenaces. Je vois la même face dans la glace. Le même corps froid comme la glace. Comme celles qui font dans les océans. L'impression que ma vie n'est qu'un fardeau géant. Tous mes sentiments sont réduits à néant. Tout est cher, bien-être et bonheur sont payants. On vit dans un système assez malveillant. À croire que le paradis n'est plus attrayant. J'ai froid dans le dos, le futur est effrayant. Ne vois-tu pas que j'ai autre chose à faire? Ne vois-tu pas que j'ai autre chose à penser? Ne vois-tu pas que le monde se meurt et que les étoiles ont arrêté de danser? Ne vois-tu pas qu'il n'y a plus rien de sens? Et ne vois-tu pas que je n'arrive plus à pioncer? Ne vois-tu pas que les routes sont pavées de ronces et qu'on a arrêté d'avancer? Oh. Je me suis trompé tellement de fois. J'suis toujours mal au même endroit. Beaucoup trop de peine en moi. Je me sens mieux dans l'isolement. Chaque jour je me demande si seulement. Yeah. Yeah.
C'était Josman et son titre Intro, issu de son album MAN. On est toujours sur Radio G, évidemment, Génération Sport de 20h à 21h. Vous nous écoutez depuis le 100.5 FM ou bien sur les plateformes DAB+, ou encore même sur Internet avec le site www.radio-g.fr. On est de retour pour revenir sur les dernières actualités internationales du moment. On va faire une page foot parce qu'il y a pas mal d'actu en ce moment. Il y a la CAN qui se dispute toujours. Il y a le mercato qui s'est terminé la semaine dernière. Il y a également une journée de Ligue 1 avec un très beau choc entre Lyon et Marseille. On a également la Coupe de France qui débute dès ce soir avec un match entre Sochaux et Rennes. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. D'abord, faire un point sur le mercato hivernal au niveau des transferts majeurs qu'il y a pu y avoir au niveau de la Ligue 1. Je vais vous faire pêle-mêle un petit peu de ce qui s'est passé. Il y a eu le transfert de Mohamed Ali Chow qui est revenu en France, donc après 2 ans à la Real Sociedad, il a signé du côté de Nice. Lyon a été très gourmand sur ce mercato d'hiver, alors sûrement pour compenser tout l'effectif lyonnais actuel. avec donc Benrahma, Orban, Fofana, Mangala, Matic, Perry ou encore Adrielson qui ont été recrutés donc cet hiver. Du côté de Marseille, 3 recrues, Jean Onana, Quentin Merlin ou encore Mumbanya, le Camerounais qui était justement du côté de la CAN avec le Cameroun. Du côté du PSG, deux seuls joueurs, deux Brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Voilà, deux joueurs à découvrir, pas forcément de folie pour le PSG cet hiver. Thilo Kehrer, un ancien parisien justement a signé à Monaco. Retour de Miko Tadze à Metz, lui qui avait été qui était parti du côté de l'Ajax d'Amsterdam après une très bonne saison en Ligue 2 l'année dernière. Rennes a recruté on va dire français avec enfin plus ou moins français, en tout cas Ligue 1, avec Matou Siwa et Alidou Seydou, respectivement de Reims et de Clermont. Est-ce que, les gars, il y a pour vous le mercato d'hiver, est-ce qu'il y a des transferts qui vous intéressent? Est-ce que vous trouvez que certains ont été timides? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Pourquoi pas le PSG? Des petits Brésiliens là qui promettent, je pense. Après, bon, toutes les recrues du PSG, j'ai l'impression que quand ils sont dans leur club, ils sont super bons et puis ils arrivent au PSG et puis c'est un peu un flop.
C'est même plus qu'un flop. Il arrive blessé, il jouera pas de la saison.
Oui, c'est vrai.
Ouais. C'est un peu
bizarre quand même. Tu fais.
Ouais, c'est Moscardo. Moscardo qui est au milieu de terrain. Beraldo qui est.
Beraldo, je pense que ça peut être pas mal. Après, il recrute encore un défenseur. Pourquoi ils s'obstinent comme ça à tout le temps acheter des défenseurs alors qu'ils ont des latéraux, Hakimi, Hernandez, Nuno Mendes, Mukiele, et je dois en oublier,
Kurzawa. Le qui est pas encore parti.
Oui, c'est vrai que je l'avais oublié, lui. Mais, on verra bien ce que ça donne.
Bon, voilà, les gars, pas d'autres.
C'est pas un mercato qui a vraiment bougé. Hein. C'est comparé à d'habitude.
Même en Europe, j'essaie de chercher des gros transferts, mais il n'y a rien.
L'année dernière, ça avait beaucoup bougé parce qu'il y avait l'effet Coupe du Monde aussi.
Ouais.
Et puis bon, il y avait les Émirats qui avaient lâché les liasses de billets.
Ouais, qui avaient commencé, ouais.
Mais. Cette année, vraiment calme.
Part pour Lyon qui a réajusté beaucoup de choses.
Oui, et puis bon, enfin, puis les Anglais qui savent toujours pas comment marchent les transferts.
C'est-à-dire?
Lyon, on a été victime. Tu dois signer à telle date.
Ah oui.
Et eux, mince, on a encore bien.
Il a failli pas venir parce que, Et c'est vrai que les Anglais sont assez coutumiers du fait.
Ouais.
Avec Ziyech, il y a un an, avec le PSG. Ou encore, je crois qu'il y avait un exemple pour Moussa Sissoko, de Réa aussi, qui avait failli aller au Real et qui n'était pas allé à cause de United.
Heureusement, pour une fois que la FIFA...
Un mercato calme.
Qui a décidé de prendre des bonnes décisions.
Ouais. Et apparemment, il y a tous les dirigeants lyonnais étaient sur le pont toute la soirée pour faire un bon dossier.
Et aussi peut-être Ali Chou qui peut peut-être se relancer.
Alors, c'est Chou. C'est Mohamed Ali, c'est son prénom.
Ah oui,
je te reprends.
Chou peut peut-être se relancer à Nice parce que bon, la Real Sociedad, il a pas été super convaincant, enfin j'ai trouvé. Ouais.
Après c'est peut-être un peu trop, pour moi c'est peut-être un peu trop haut entre guillemets parce qu'il y a peut-être un peu trop de concurrence. J'aurais peut-être vu sur un club un peu plus intermédiaire.
Nice, je pense que franchement,
mais Nice qui est deuxième, qui a déjà son 11, tu vois, j'aurais peut-être vu du côté de, je sais pas, Brest en vrai qui joue le haut de tableau mais qui a peut-être besoin de rotation, ou même des équipes.
Après Nice, c'est pas tableau, non plus en termes d'effectifs, c'est pas non plus un effectif extraordinaire.
En attaque, mais par exemple, tu vois, il y a Boga qui va revenir de la CAN, donc on verra ça. Au niveau des résultats de la Ligue 1 ce week-end, le PSG s'est imposé timidement 2-1 contre Strasbourg. Rennes l'a emporté 2-1 également contre Montpellier. Lens s'est imposé 1-0 contre Nantes. Match nul 1 partout entre Monaco et Le Havre. Toulouse s'est imposé à Reims 3-2. Lorient à Metz 2-1. Lille a cartonné Clermont 4-0. 0-0 entre Brest et Nice. Et enfin, l'Olympico qui a été remporté par les Lyonnais. 1-0 but d'Alexandre Lacazette. C'est pas pour nous déplaire. Justement sur cet Olympico, est-ce que c'est une victoire qui peut faire du bien à Lyon, qui peut lancer une nouvelle saison quelque part, parce que l'effectif a beaucoup changé, il y a un nouveau coach, il y a peut-être des ambitions qui sont revues à la hausse. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah ouais, je pense que c'est une victoire qui était assez inattendue, mine de rien, quand même.
Ouais.
Pas grand monde qui voyait l'OL gagner contre l'OM sous cette forme-là. Mais ouais, ça peut lancer clairement une dynamique. Ils ont quand même eu chaud dès le début du match. Je sais pas si t'avais vu le match dès le début, mais.
Bah, la barre. Le but qui a bien failli tromper Anthony Lopez.
Ça aurait été sympa, ça aurait été marrant. Mm-hmm. Mais ça dépend pour qui.
Ça dépend pour qui.
Mais ouais, non, sinon ça peut clairement lancer une bonne dynamique pour Lyon qui peuvent s'en sortir finalement cette année.
Ouais. Et justement peut-être par la Coupe de France, puisque ce sont les huitièmes de finale qui vont commencer dans quelques minutes avec ce premier affiche entre Sochaux et Rennes. Demain, Lyon va recevoir justement Lille. Strasbourg jouera contre Le Havre. Il y aura également Montpellier-Nice, Le Puy-en-Velay contre Laval, Saint-Priest recevra Valenciennes. Beau choc également entre le PSG et Brest. Et puis jeudi, c'est Rouen qui recevra Monaco. Voilà pour la Coupe de France, oui.
Peut-être pour rebondir sur Lyon, je pense que, enfin, ils étaient déjà dans une dynamique un peu plus positive qu'en début d'année. Et là, ils sont déjà passés à la 15e place et ils sont à 5 points de la 11e place. Donc, bon, moi je les vois sauver, franchement, pour battre l'OM comme ça, ils ont largement les capacités de se sauver après.
Ouais, et encore du potentiel dans cette équipe.
Oui, oui.
Également, on va parler de la CAN, même si on l'a déjà évoqué avec Yaya Fofana. Les demi-finales qui auront lieu demain, la première à 18h entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, et la deuxième à 21h entre la Côte d'Ivoire, le pays hôte, et la République démocratique du Congo. Messieurs, un petit favori sur la CAN, rapidement, ou
Moi, au début de la CAN, j'avais mis Sénégal-Côte d'Ivoire.
Ok. Bon,
j'en sors un des deux, parce que de toute façon, je ne pouvais pas sortir les deux, ils sont joués en huitième. J'attendais quand même plus le Sénégal que la Côte d'Ivoire.
Ouais, le Sénégal qui est sorti justement contre la Côte d'Ivoire.
Ouais, ça, surtout au vu des phases de poule, hein, où la Côte d'Ivoire qui se fait sauver par la règle du meilleur troisième, meilleurs troisièmes. Mais ouais, je pense que du coup ils sont lancés maintenant. Ils ont mine de rien une très bonne équipe. Et les autres nations qui sont qualifiées, on les voyait pas forcément là non plus. Donc il y a eu beaucoup de surprises quand même dans cette CAN.
Voilà, Côte d'Ivoire, je sais pas, ils sont miraculés, je pense, pour gagner comme ça. Ce week-end, j'en revenais pas quand j'ai vu le résultat du match, qui marque à la 90e, qui vont en prolongation, qui prennent deux rouges, et qui arrivent quand même à gagner à la 120e plus deux. Bon, tu te dis, il y a tout qui leur réussit pendant cette CAN. Bon, je pense que franchement, s'ils gagnent pas, ça sera le Nigeria pour moi.
Okay.
Si la Côte d'Ivoire ne gagne pas, ça sera le Nigeria, mais bon. Personne n'aurait parié deux demi-finales comme ça avec le Congo et l'Afrique du Sud.
Ouais.
Bon, on sait pas trop ce qu'ils viennent faire là, mais bon, ils ont réussi un beau parcours. Peut-être qu'ils vont peut-être. Se retrouve avec une finale Congo-Afrique du Sud,
ça pourrait nous surprendre.
Bon, ça fera parler, hein, je pense.
Ah, oui.
Ça, le mot corruption, je pense, arrivera très vite. Hein,
oh non, tout de suite. Non, c'est vrai, qu'est-ce que t'as un favori?
Corruption dans le football africain, c'est vrai.
Ça
n'existe pas. Non, après, moi, j'ai pas de favori, vu que c'est un événement que je suis quasiment pas. Donc...
Non, tu.
C'est, ouais, okay, non, mais, c'est clair, ah, non, mais moi, la CAN, je disais, c'est un football que je connais quasiment pas, hormis il y a certaines équipes qu'on voit un petit peu venir jouer en Europe, régulièrement, mais.
Ok.
Ou sur les Coupes du Monde, mais c'est vrai que.
Moi, je
connais quasiment rien quoi de vraiment.
Non, bah ok. Moi, je partirais sur la Côte d'Ivoire qui, pareil, pour moi, était un des favoris en début de compétition. Mmh. Mais je mettais un trio Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire. Donc, il y en a deux qui sont morts très rapidement. Mais ouais, Côte d'Ivoire, même si il y a Fofana. Enfin, voilà, pour Yafofana quoi, qui gagne, qui nous rapporte la CAN, ce serait pas mal. Mmh. On a eu deux demi-finalistes de Coupe du Monde il y a un an. Pourquoi pas un vainqueur de CAN? Voilà un petit peu pour la Coupe d'Afrique des Nations
j'ai l'impression que le format
est terminé dimanche,
Le format, il a quand même évolué. J'ai l'impression que la compétition, elle est beaucoup plus courte de pas grand-chose que par avant.
Ah ouais?
Ouais.
Pourtant, c'est genre déjà fini, quoi. Dimanche, c'est fini.
Ouais, ouais, mais j'ai l'impression
ça a duré 4 semaines.
Ouais, ouais, oui, c'est classique, je pense. Hein.
Ouais, mais j'ai l'impression que tu avances, ça a duré beaucoup plus longtemps.
Okay. Enfin, l'euro, tout ça, ça dure un mois.
Une semaine ouais, de plus. Ouais.
Mais voilà, pour les actus foot, rien d'autre à rajouter au niveau du foot. Ouais, on a déjà parlé de pas mal de choses.
Moi, je suis fan du Barça, Victor Roquet, qui fait ses deux premiers matchs, qui marque.
Ok, d'accord.
Voilà,
okay.
Tu sais qu'ils n'ont plus d'entraîneur pour l'année prochaine.
Oui, mais ça, c'est pas grave.
Ouais,
bah, on en trouvera un autre.
Oui, bah, avec l'argent qu'ils ont récupéré, voilà.
On verra.
Par miracle.
Voilà pour le foot. Petit mot du hand aussi. Je tenais à donc parler un petit peu des Bleus qui ont été sacrés champions d'Europe il y a à peu près une dizaine de jours maintenant contre Danemark. Et puis surtout cette demi-finale. Je peux vous dire que j'ai hurlé sur le but de Prandi. Mais alors j'ai hurlé d'une force. Incroyable, des sensations qui font plaisir. Et,
heureusement que t'as répondu au message qu'on t'a envoyé, hein, parce que
bah ouais,
on pensait à la crise cardiaque. Hein.
Bah ça, à l'AVC à tout moment, mais ouais, non, vraiment, j'étais comme un fou alors que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils le mettent. Je le voyais déjà éliminé, à commencer à critiquer Guillaume Gilles, enfin tu vois, des choses comme ça.
Et
puis bon, au final, on est champion d'Europe, donc on revient de très loin. Donc ça fait plaisir. Et puis bah voilà, encore un petit mot. Voilà, je suis content pour Prandi parce que déjà ça va permettre de se faire connaître aux yeux du grand public parce que ça a été quand même relayé partout sur les réseaux sociaux son but. Et puis surtout c'est un joueur prometteur qui a une trajectoire de carrière qui est un peu avec des hauts et des bas. On va dire qu'il était annoncé il y a 2-3 ans comme un énorme crack, justement parce qu'on avait vu rapidement le bras qu'il avait, c'était monstrueux. Et en fait, au PSG, il s'est pas forcément imposé tout de suite. Et puis voilà, il y a eu des hauts, des bas. Et finalement, voilà, au moins il a pris la lumière sur cette compétition et ça fait plaisir pour lui. Celui qui a aussi subi une attaque au couteau, je sais pas si vous avez vu l'affaire qu'il y avait il y a 2 ans, au Nouvel An, en sortie boîte de nuit, il s'était fait agresser au couteau. Et voilà, il est revenu petit à petit et aujourd'hui il est champion d'Europe. Et puis aussi un mot, si on peut dire ainsi, sur Nikola Karabatic, mais que dire de plus finalement? Un palmarès long comme le bras, 4 titres de champion d'Europe, 4 titres de champion du monde, 3 titres de champion olympique, 3 Ligues des Champions. Voilà. C'est un palmarès assez énormissime.
On verra pour peut-être un quatrième.
Bah, il peut faire 4 fois le en tout cas avec l'équipe de France 4 fois le triplé, ce qui est évidemment jamais vu dans l'histoire.
Pas mal.
Donc on peut aisément l'appeler le GOAT, le GOAT de ce sport. Voilà, évidemment, plus surtout que sur cette compétition, il a pas juste été remplaçant, vieux briscard et tout. Non, il a été titulaire, il a été bon, à part peut-être sur le dernier carré, mais il a été très très fort tout au long de la compétition. Donc encore une fois, chapeau, j'ai envie de dire. Voilà pour le hand. Un petit mot de rugby avant de passer sur le basket et ensuite la Formule 1 et le judo, évidemment, pour terminer. Donc vendredi, tu le disais, Cédric, il y a eu ce match du tournoi à destination, la première journée, contre l'Irlande au Stade de France. Et nos Bleus se sont inclinés 17-38. Du coup, t'as pu regarder le match quand même?
Ouais. J'ai pu. Enfin, j'ai revu
les Bleus qui ont
des morceaux pour l'analyser un peu, mais ouais.
Les Bleus qui ont subi un carton rouge à la 32e minute de jeu. C'est Williams qui s'est fait exclure.
Ouais,
pardon.
C'était pour une deuxième faute quasiment identique.
Ouais, mais il aurait quand même pris rouge.
Pour rappeler un peu le contexte du rouge.
Et les Bleus qui donc ont marqué 2 essais avec Damien Penaud et également Gabriel Yag, je vais y arriver, qui a marqué un essai.
Oui.
Qu'est-ce que t'as pensé du match, Cédric, globalement?
Globalement, elle était où l'équipe de France?
Elle était pas là.
Elle était pas là, non, mais.
Elle était toujours traumatisée, peut-être aussi, un peu. On peut
alors
le dire.
Ça, non, je pense pas.
Non, tu penses pas?
Après, ça prouve une chose, c'est que l'Irlande était vraiment solide aussi en Coupe du Monde. Et en soi, la défaite, elle est pas surprenante. Qu'ils nous aillent retourner comme ça, c'est pas surprenant. Il y a moyen que ce soit eux qui fassent le grand chelem cette année, sur le tournoi.
Ouais,
c'est quasiment sûr. Peut-être les Gallois ou les Anglais où ça peut s'accrocher un peu plus, mais et encore j'y crois pas trop quand on voit le match qu'ils ont sorti là. Non, mais c'est surtout c'était quoi les motifs pour sélectionner les joueurs en équipe de France?
Je t'écoute.
Parce que on en parle du capitaine
Aldrit?
Non, non, du capitaine de l'équipe de France.
Oui, c'est Aldrit.
Non?
Ah, Dupont.
Dupont?
Et ah, oui, bah. Il se prépare pour le rugby à 7.
Oui. Alors justement, c'est, bah, donc, en plus, c'est quoi? T'as anticipé ma question, parce que justement, je voulais savoir ce que t'en pensais, toi. Il y en a beaucoup qui débattent. Est-ce que c'est normal que lui aille jouer le rugby à 7? Est-ce que c'est normal que... Est-ce que tout ça est normal, finalement, qu'il zappe un tournoi de 6 nations pour se concentrer sur le rugby à 7 et les Jeux Olympiques?
En soi, il a le droit d'aller jouer l'équipe olympique, ça, c'est pas, ça peut se comprendre, voilà, pour, vis-à-vis de ce qu'il a apporté au rugby français. Mais ce qui est dérangeant, c'est que il vient pas jouer en équipe de France, et le même week-end, il fait un gros match à Toulouse.
Ouais.
Et là, on dit, ah oui, mais c'est parce que faut le préserver, donc on le fait pas jouer en équipe de France. Dans une semaine, il a un stage avec justement l'équipe
de
rugby à 7. Dans ces cas-là, tu le mets aussi en repos à Toulouse. Tu vas pas prendre le risque qu'il aille se blesser avec Toulouse. Dans ces cas-là, tu le laisses aller avec l'équipe de France.
Est-ce qu'il, ouais, il peut, ouais, il aurait pu disputer en fait, un match, peut-être, est-ce que c'est possible, ça?
Bah, ouais,
tu connais pas les règles.
Oui, tu peux.
Il y avait pas vraiment d'intérêt à faire ça, en fait.
Pour gagner un match contre l'Irlande.
Pour gagner un match contre
l'Irlande. Je suis pas sûr qu'il aurait vraiment changé. Enfin,
dans ces cas-là, on joue pas le tournoi destination cette année parce qu'il y a les JO, toi.
Non, mais c'est je pense pas qu'il aurait changé, il aurait eu un impact sur le match, mais de là à faire gagner l'équipe de France, c'est pas lui qui aurait tout changé, je pense.
Quand tu vois la performance qu'il fait quand même à Toulouse, ça pose quand même des grosses questions sur sa place en équipe de France.
Et puis après aussi, c'est un leader,
et son impact,
sur les vestiaires.
Oui, c'est sûr.
Dans les vestiaires, enfin,
après, il y a ça aussi un 40. Faut pas oublier qu'il y avait pas que Dupont, il manquait pas que Dupont dans l'équipe là.
Ouais. Mais là, c'est quand même flagrant que Galtier, sur ce coup-là, il a pas été patron, hein. C'est encore les petites magouilles dans les coulisses du rugby français. C'est un peu dommage. Après, il y avait quand même les blessés, effectivement, qui ont joué là-dessus. Mais bon, à aucun moment, on doit perdre le match de cette façon-là. On doit pas s'en prendre autant. Surtout vu ce qu'on a fait en Coupe du Monde, quoi.
Ouais, il y a eu 5 essais d'encaisser, hein, par les...
Ils étaient vraiment forts, enfin. Je sentais les bleus impuissants qui, à part après la seconde, enfin un peu avant la mi-temps et après la seconde mi-temps, ils ont vu un peu plus le jour, ils ont l'occasion de revenir à 3 points, mais il y a Ramos qui loupe sa pénalité, et je pense que ça a été un peu le tournant du match. Ils ratent cette pénalité, ils se prennent un essai derrière, et là tu les as sentis effondrés, ça, de prendre un essai comme ça alors qu'ils étaient en train de dominer, qu'ils auraient pu presque revenir au score, ça leur a mis un coup derrière la tête, et je pense que ouais, ça les a bien assommés. Puis il y a toujours les démons de la Coupe du Monde qui sont un peu présents dans les têtes, je pense, et forcément ça doit faire mal.
Ouais. Donc
ce qu'il va falloir faire pour la suite du tournoi, c'est peut-être d'aller explorer la piste des U20.
Ouais,
vu qu'ils sont quand même champions du monde en titre.
Puis qu'ils ont battu l'Irlande.
Je pense que ça, de toute façon, on sait que là, ça y est, le tournoi, on peut plus le gagner.
Ah, bah,
autant justement faire des tests avec des jeunes comme ça. Ça leur permet d'avoir de l'expérience aussi avec le groupe.
Ouais, justement, par rapport au calendrier, les Français vont se rendre en Écosse, match à 15h15 samedi prochain. Ensuite, ce sera 2 semaines plus tard, le dimanche à 16h contre l'Italie, et enfin le Pays de Galles, donc le 10 mars à 16h, et enfin on terminera par la réception de l'Angleterre à Lyon.
Ouais.
Ok, bah très intéressant. Deux marques de céréales, il en faut une troisième. On a dit Crunch et Lyon.
C'est pas une marque, ça s'appelle comme ça.
C'était une petite boutade. Ça m'a fait
pas
penser
mal,
à ça.
On n'a pas besoin pour les.
Ouais, j'ai des talents d'humoriste. voilà pour le rugby. On va espérer que les Bleus se reprennent un peu sur la fin du tournoi destination. Faustin, on va parler un petit peu basket avec le All-Star Game, et je crois que d'ailleurs que tu as eu une breaking news pendant l'émission.
Voilà.
Tu vas nous parler de tout ça, mais voilà, en tout cas, il n'y aura pas de Français au All-Star Game cette année.
Non, en tout cas, pas cette année du coup, et pas pour le match des All-Stars, parce que Wemby sera présent à deux événements, d'abord le Rising Star Challenge, le Rising Star tout court, qui oppose des jeunes joueurs de G-League, des sophomores, donc des joueurs qui sont dans leur deuxième année, ainsi que des rookies, et Wemby et Bilal Koulibaly en font partie. Il participera aussi au Skills Challenge, qui est un format arrivé depuis quelques années, et concrètement tu fais des slaloms, des passes et des shoots, et celui qui fait le plus vite, il gagne. Sinon, on connaît maintenant toutes les compositions des équipes All-Star. Alors, à l'Est, en titulaire, on aura Antetokounmpo, Joel Embiid, qui est blessé et qui sera remplacé, Jason Tatum et Tyrese Haliburton. Les remplaçants sont Jalen Brown, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Bam Adebayo, Julius Randle, Tyrese Maxey et Paolo Banchero. À l'ouest, on a LeBron James, évidemment, capitaine, Nikola Jokic, Kevin Durant, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander en titulaire. Les remplaçants sont Karl Anthony Towns, Paul George, Stephen Curry, Anthony Edwards, Devin Booker, Kawhi Leonard et Anthony Davis. Avant l'émission, j'avais écrit que les grands absents de cette liste étaient notamment Trae Young, Rudy Gobert ou bien Scottie Barnes. Eh bien, il y a de cela 20 minutes, l'information vient de tomber. Joel Embiid blessé sera remplacé par Scottie Barnes et Julius Randle blessé lui aussi sera remplacé par Trae Young. Voilà, qui mérite amplement ouais. leur place. Il manque quand même un petit Rudy Gobert qui fait une très bonne saison, ou bien Domantas Sabonis, ou bien De'Aaron Fox, deux joueurs des Kings qui font eux aussi une très bonne saison, qui ne seront pas présents, qui ont été un peu oubliés.
Un peu trop tôt pour Wemby encore.
Ouais.
On revient enfin au format classique du All-Star. Ça y est.
Ouais. Fini les drafts où le capitaine choisit son équipe.
Les LeBron contre Giannis.
Voilà, c'est ça. Ça aurait été ça cette année une fois de plus. Là, c'est le retour Est contre Ouest. C'est un format qui était plus apprécié que le nouveau.
Voilà, merci Faustin pour ce point basket. Donc une chronique la semaine prochaine qui parlera de quoi du coup?
Bah du All-Star Game, de tout ce qui
va revenir.
À 3 points le dunk contest.
Très bien, tu nous feras un point là-dessus la semaine prochaine. On va parler un petit peu de judo maintenant et on terminera par la Formule 1 si on a le temps. Vous donnez les résultats du Grand Slam de Paris qui s'est déroulé ce week-end donc à Paris, voilà, comme son nom l'indique. Vendredi, victoire notamment de Shirin Boukli, pardon, dans la catégorie des moins 48 kilos. La Française Mogdar s'est également imposée dans les moins 57 kilos. Chez les hommes, c'est Lucas Mkedz qui l'a emporté dans la catégorie des moins de 60 kilos. On a également le lendemain Agbenienou qui s'est imposé dans la catégorie des moins de 63 kilos, qui a bien confirmé. Marie-Ève Gaillet qui a perdu en finale des moins de 70 kilos. Et puis le dimanche, deux victoires françaises, pardon, avec Romane Dicot dans les plus de 78 kilos et Teddy Riner dans les plus de 100 kilos. C'est vrai que c'était le grand retour de Teddy Riner après plusieurs mois, encore une fois, sans compétition. Je sais que Yann, ça le fait hérisser de voir que Teddy Riner est un petit peu favorisé au niveau des sélections notamment.
Bah, c'est pas qu'il est favorisé, il a eu son passe-droit depuis longtemps.
Ça là, en même temps la vitrine de cette fédération de française de judo. Toi t'en penses quoi? Après je sais pas si t'as pu voir le match en lui-même, mais globalement c'est un succès qui peut rassurer avant les JO.
Pas tant que ça.
Non,
pas
tant que ça.
Il a quand même été mis en danger sur certains matchs, donc c'est pas surprenant hein, quand tu passes plus ton temps maintenant à faire soit de la promotion pour des marques ou faire que des stages mais pas de compétition, bah au bout d'un moment ça te rattrape hein.
Ouais.
Donc sa place pour moi, alors il a gagné là sur le tapis parce que il remporte le Grand Slam, mais alors attention, normalement, c'est pas encore tout à fait décisé qui a les places, mais on sait que Kriner, il avait son passe-droit. Donc, si tu fais un passe-droit pour lui, dans ce cas-là, il faut faire un passe-droit pour les autres, notamment chez les femmes. Hein, il y en a qui sont quand même aussi hyper médaillés, qui représentent la vitrine du judo français et encore plus côté féminin. Donc
ouais.
Non, sur ce point-là, ouais, je suis pas forcément rassuré. Hein, on va voir. Là, il a déclaré qu'il allait remettre un peu plus le bleu de chauffe. Donc
ouais, on verra.
On va voir réellement.
Il y a un grand chelem à Bakou dans quelques temps.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il refera un grand chelem.
Dans deux semaines,
peut-être plus.
Tu parlais des sélections par rapport au JO. Il y avait pas mal de tensions justement parce que voilà, tous les Français cherchent un peu leur ticket puisqu'il y aura qu'un seul participant ou participante dans chaque catégorie, notamment chez les moins de 78 kilos avec Madeleine Malonga et Audrey Chemeo, donc deux têtes d'affiche aussi du judo français. Elles se sont affrontées, donc ça s'est un petit peu échauffé, on va dire.
Mais apparemment, c'est plus libre.
Un non serrage de main de Chemeo qui avait perdu en repêchage contre Malonga. Et voilà, on ne sait pas encore laquelle des deux sera du côté des JO de Paris.
Après, c'est beaucoup les médias qu'on en fait apparemment des tonnes, parce que ce qu'elle explique, c'est que c'est pas contre elle, c'est plus contre l'arbitrage. Et,
ouais, ok, très bien.
Mais après, pareil, il y a d'autres petites choses aussi que va falloir que la Fédé se décide très vite, notamment avec Abdel Namou. Parce qu'elle souhaiterait avoir sa fille d'un an avec elle au village olympique. Et ça a l'air d'être compliqué pour accéder à ça. Enfin, c'est.
Ok. Bon.
Donc, est-ce qu'on risque pas de se priver, tu vois, d'une favorite aussi? Pour des futilités comme ça, je trouve c'est un peu débile qu'on interdise aux athlètes de pas voir leurs enfants, surtout à cet âge-là. Il y a eu déjà dans le passé, des cas comme ça pour Tokyo où des jeunes mamans avec des enfants de 3 mois, elles avaient le droit de les voir que dans des hôtels et pas dans les villages olympiques. Faudra qu'on m'explique pourquoi ça dérangerait qu'un enfant soit dans un village olympique. Après, j'ai ma petite idée, mais bon, on aura le temps d'en débattre.
Oui, exactement. Et justement, un dernier petit argumentaire. Cédric, tu nous parlais de Hamilton, parce que faut qu'on boucle l'émission très bientôt. Quel est rapidement ton avis, ça te fait rapide, une ou deux minutes, sur le transfert d'Hamilton à Ferrari?
Surprenant. On sait pourquoi c'est fait, hein. C'est pour des histoires de pognon derrière.
Il
va être payé très cher.
100 millions à l'année.
Surtout, Ferrari, ça va leur permettre aussi de récupérer pas mal d'argent sur le merchandising. Sportivement, je suis pas convaincu.
Ok.
Déjà, on va voir ce que ça va donner sa dernière saison chez Mercedes. Hamilton, quand il est pas leader dans une écurie ou qu'il se sent menacé, on sait ce que ça va donner avec Alonso.
Ouais.
Ça peut partir très vite en étincelle. Là, Leclerc qui re-signe. Et derrière, on lui met Hamilton comme coéquipier. Officiellement, il est ravi, mais bon. Avec la saison là, c'est pas forcément les bons messages que t'envoies. Et puis Sainz qui se retrouve un peu en mode, allez, mon coco, tu fais une saison super avec nous cette année, puis au revoir, quoi.
Au revoir.
C'est un peu compliqué, le management chez Ferrari depuis un moment.
Ouais.
Alors, ça sera les changements aussi avec les nouvelles voitures, donc ce sera peut-être ça qui fera la différence. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas un grand fan.
Tu penses que ce duo, donc on rappelle, c'est pour 2025.
Ouais.
Ce duo Leclerc-Hamilton, est-ce que tu penses qu'il peut challenger Verstappen et j'ai oublié son nom, Sergio Pérez, c'est ça?
Pérez, si Pérez est encore là.
Je pense que ça peut challenger un peu
Ça sera les nouvelles voitures, les nouvelles réglementations, donc potentiellement ils auront leur chance, mais à voir si en interne ça va pas exploser, tu vois.
Ouais.
J'ai du mal à voir Hamilton quand même être au même niveau qu'un Leclerc. Donc
bon, on verra
à
ça.
À suivre, on va déjà voir comment ça va se passer sur les premiers Grands Prix cette année.
Si
la motivation est là, parce que aussi Hamilton là-dessus, la motivation, on sait jamais quand elle est là.
Exactement. Et justement, ce premier, est-ce que tu sais quand c'est le premier?
Premier Grand Prix, ce sera
en mars. Mars.
Ce sera un samedi, exceptionnellement.
Très bien. Bon. Voilà pour l'actu de Formule 1. Merci messieurs, merci Faustin, merci Clément et merci Cédric de m'avoir accompagné dans cette émission. On va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite après nous, c'est Imaginaire qui va vous accompagner sur Radio G. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.